Voilà, gloire au Seigneur. Bonjour à tous. J'aimerais ouvrir la parole de Dieu avec vous dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 12 et au verset 28. Hébreux, chapitre 12 et le verset 28. Le thème de ce matin, c'est rendre un culte agréable à Dieu. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Amen. Puis j'ai eu deux autres versets aussi en pensée, en préparant ce culte, on va les lire tout de suite. C'est Romains chapitre 12, verset 1. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Et Philippiens, chapitre 3, verset 3. « Car les circoncis, c'est nous, qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. » Dans ces trois versets, il y a trois aspects du culte qui sont mentionnés. D'abord, un culte agréable à Dieu. On a lu dans le premier verset. Le verset suivant nous parle d'un culte raisonnable. Et puis enfin, un culte rendu par l'Esprit. Et puis finalement, ces trois pensées se rejoignent dans cette idée que nous devons apporter à Dieu un culte qui lui soit agréable. Alors on peut se poser la question, mais pourquoi finalement est-ce que nous venons le dimanche, dimanche après dimanche, dans ce lieu? Quelle est la raison? Est-ce que c'est pour chanter? Est-ce que c'est pour rencontrer des chrétiens qu'on vient ici? Quelle est la raison essentielle qui nous fait venir dans ce lieu, le dimanche matin? C'est pour rendre un culte à Dieu. C'est ça la raison essentielle. Bien sûr, on chante, bien sûr, on rencontre des frères et des sœurs, c'est un temps de bénédiction. Mais la raison, si je n'ai pas compris la raison essentielle pour laquelle je viens dans ce lieu, la raison essentielle, je passe à côté du culte. La raison essentielle, c'est d'abord, je viens pour rendre un culte à Dieu. C'est pour ça que je viens le dimanche dans ce lieu, parce que c'est ce qu'il y a dans mon cœur. J'aime Dieu et je veux lui rendre un culte qui l'honore. Nous ne rendons pas un culte à n'importe qui. Nous considérons Dieu dans sa puissance, dans sa grandeur, dans sa majesté. Il est le roi de gloire. Et nous ne rendons pas non plus un culte n'importe comment. C'est pourquoi j'ai lu ces versets en introduction. Dieu attend de nous un culte agréable, qui lui soit agréable à lui, un culte raisonnable selon ses critères et un culte par l'Esprit de Dieu. Voilà ce que Dieu désire et c'est ce que nous devons apporter. Donc le but pour nous n'est pas simplement de rendre un culte comme un devoir religieux parce qu'on a l'habitude tous les dimanches. Alors si on ne remplit pas ce devoir, alors voilà, on se considère comme ceci ou cela. Non, nous n'accomplissons pas un rite ou un devoir religieux. Notre but, c'est d'être agréable à Dieu. Pas même être agréable à nous d'abord, mais d'être agréable à Dieu. Alors, on ne vient pas d'abord pour recevoir quand on vient au culte, mais on vient pour donner. Ça aussi, c'est une dimension qu'il nous faut bien cerner. C'est que bien souvent, on arrive vidé, fatigué, lassé, alors que théoriquement, on doit se préparer avant de venir au culte pour apporter au Seigneur notre louange, notre adoration. On en reparlera tout à l'heure de la préparation. Et c'est un principe biblique, c'est que dans la mesure où l'on donne, on reçoit. Il y a un verset de l'Écriture qui dit que celui qui donne peu reçoit peu et celui qui donne abondamment reçoit abondamment. Est-ce que nous venons pour donner au culte? Est-ce que nous venons pour donner abondamment? Si c'est le cas, alors nous recevrons abondamment de la part de Dieu. Amen. Chacun vit le culte d'une manière différente. Et j'ai remarqué que ça dépend surtout de l'attitude de cœur. Parce que dans le même culte, vous avez une personne qui va vraiment louer Dieu, adorer le Seigneur. Et dans le même culte, une personne qui va être dans ses soucis, dans d'autres pensées, qui fait qu'il ne rend pas un culte à Dieu, mais qu'il est encombré, il est pris par toutes sortes de problèmes dans son esprit et qui l'empêche d'adorer. Et pourtant, les deux personnes sont dans le même culte au même moment. Donc ça dépend beaucoup de notre attitude de cœur vis-à-vis de Dieu. Alors un premier point que j'aimerais partager avec vous, c'est d'abord l'importance du culte. L'importance pour Dieu et l'importance pour nous. L'importance du culte pour Dieu. Psaume 149, verset 1. Psaume 149 et le verset 1er. Louez l'Éternel. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez ses louanges dans l'assemblée des fidèles. Qu'Israël se réjouisse en celui qui l'a créé. Que les fils de Sion soient dans l'allégresse à cause de leur roi. Qu'ils louent son nom avec des danses. Qu'ils le célèbrent avec le tambourin et la harpe. Car l'Éternel prend plaisir à son peuple. Il glorifie les malheureux en les sauvant. Amen. L'Éternel prend plaisir à son peuple. Ça veut dire que Dieu est heureux de nous voir assemblés pour l'adorer. Les cultes, donc, ont une importance pour Dieu, ça compte quelque chose, et il ne les considère pas comme des miettes ou comme de la misère. Nous apportons au Seigneur, alors il est question de chants, cantiques nouveaux. Est-ce que vous aimez apprendre des nouveaux cantiques? Ou finalement, avec ce qu'on sait aujourd'hui, ça y est, on n'a plus besoin d'apprendre. On a toujours besoin d'apprendre des nouveaux cantiques, manière d'adorer le Seigneur. On se réjouit, les cultes sont marqués par la joie, vous avez remarqué les termes d'allégresse, les termes de joie, bref, on s'exprime devant le Seigneur, il y a la musique, il est question des danses, il est question de l'expression, donc nous adorons le Seigneur de tout notre cœur. Alors les cultes, donc, comptent, sont importants pour Dieu et on se rend compte que Dieu aime recevoir l'adoration de son peuple. Est-ce que vous savez ce matin que nous pouvons réjouir le cœur de Dieu ou nous pouvons attrister le cœur de Dieu? On a la possibilité, on a les deux possibilités. Bien des gens ont une image d'un Dieu lointain, austère, qui n'a pas d'émotion. Or, on voit qu'ici, Dieu se réjouit, Dieu prend plaisir à son peuple. Dieu éprouve donc des émotions et la Bible nous montre qu'il peut être dans la joie, mais il peut être aussi dans la colère. Quand nous ne faisons pas sa volonté, il est attristé, mais il peut aussi être en colère, un petit peu comme un... Dieu est un père pour nous. Un père, c'est proche, un père, c'est quelqu'un qui nous aime et qui nous comprend. Au psaume 22, verset 3, vous connaissez ce passage, il est dit que Dieu siège au milieu des louanges d'Israël. Dieu siège. Il est question du trône de Dieu, du siège de Dieu. Et on a dans la parole des révélations sur le trône de Dieu, par exemple Ésaïe chapitre 6, où dans une vision, le prophète a une révélation de ce qui se passe dans le ciel. Extraordinaire vision d'Ésaïe. Il voit, il dit, voici, je vois le trône élevé de Dieu. Les pans de sa robe remplissaient le temple. Il voit l'adoration céleste. Il y avait des séraphins qui louaient le Seigneur et qui disaient la terre est remplie de sa gloire. Saint, saint, saint est l'Éternel des armées. Donc il a une grande révélation de ce qui se passe dans le ciel. Et nous savons que la louange dans le ciel est permanente. On loue Dieu dans le ciel. Et nous, sur la terre, nous pouvons aussi louer le Seigneur, et c'est ce que Dieu attend de nous. Alors, on peut traduire aussi ce verset, « Dieu siège au milieu des louanges », on peut traduire « Dieu habite au milieu des louanges de son peuple ». Parce que Dieu aime être environné de louanges. Habiter, ça signifie de demeurer dans le temps. Dieu donc aime avoir de la louange, de l'adoration, et c'est ce que nous voulons faire quand nous venons au culte. Je voulais lire un autre texte pour montrer que Dieu a des exigences. Nous venons bien sûr rendre un culte à Dieu, mais il nous faut savoir qu'est-ce que Dieu attend de nous. Dans Jean chapitre 4, il nous montre ici, Jean chapitre 4, verset 23. Voilà ce que Dieu attend. Mais l'heure vient, c'est Jésus qui parle à la Samaritaine, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. On se rend compte que donc Dieu attend quelque chose ou demande quelque chose de nous, c'est que nous soyons des vrais adorateurs. Ensuite, le verset dit, Dieu est esprit et il faut. Et maintenant, Jésus utilise un impératif, il faut, et ça ne doit pas être autrement, il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Autrement dit, si moi je ne remplis pas ces conditions, je ne rends pas un culte agréable à Dieu. Il est question ici de choses précises, d'être un véritable adorateur, de rendre un culte en esprit, en vérité, et c'est donc à moi de le faire. Donc Dieu n'attend pas de nous une liturgie ou une routine, une tradition religieuse, comme un devoir forcé. Allez, c'est dimanche matin, il va falloir louer le Seigneur, et puis on n'a pas envie vraiment. Quand on le vit comme une contrainte, puis ça revient chaque semaine. Ce n'est pas du tout la conception de Dieu. Dieu désire que quand on vient dans sa présence, c'est pour le louer et l'adorer en esprit et en vérité. Dieu cherche des adorateurs et il s'intéresse davantage à notre relation avec lui qu'aux mots que nous allons prononcer dans la louange ou que ce que nous faisons pour lui. Quelle est notre relation avec Dieu ce matin? Où en sommes-nous avec lui? Est-ce que nous avons une bonne relation ou est-ce que c'est chacun de son côté parce que nous ne lui parlons plus? Et si nous venons au culte alors que nous n'avons pas une bonne relation avec Dieu, comment est-ce qu'on va pouvoir apporter une adoration qui lui soit agréable? On est à côté encore de ce que Dieu demande. Donc Dieu s'intéresse beaucoup à notre état d'esprit, à notre âme, à notre relation avec lui. Est-ce que nous sommes ce matin des adorateurs comme Dieu le demande? Parce que si nous ne le sommes pas, ben, on passe à côté de ce que Dieu veut. Par contre, si vraiment on remplit ces conditions, on se rend compte, on n'a pas lu tout le texte, mais Jésus montre à cette femme que si on est un véritable adorateur, il n'est plus question d'un lieu particulier comme le temple de Jérusalem ou le mont Garizim, il n'est plus question d'un lieu, mais la présence de Dieu est en nous. Et il n'est plus question non plus d'un jour particulier, parce que quand on aime l'adoration, on est des adorateurs et on peut adorer Dieu tous les jours. Et on peut rendre gloire à Dieu tous les jours, à la maison, avoir son temps d'adoration. Donc, je pense que c'est ça le cœur selon Dieu. Vous savez qu'il est dit que David était un homme selon le cœur de Dieu, parce qu'il était porté dans la louange et dans l'adoration. Il avait quelque chose pour Dieu, il mettait toujours à l'honneur. Et frères et sœurs, nous aussi, nous pouvons avoir un cœur selon Dieu si nous savons le louer, savons l'adorer comme il le demande, être donc des adorateurs. Un deuxième aspect, toujours dans ce premier point, on parle de l'importance du culte, on a vu l'importance du culte pour Dieu, mais l'importance du culte pour nous. Un deuxième aspect, l'importance du culte pour nous, car le texte qu'on a lu en tout premier, Hébreux chapitre 12, nous dit qu'on doit lui rendre un culte agréable, avec piété et avec crainte. Ça, c'est notre part. Un culte avec piété et avec crainte, ce qui signifie d'avoir un profond respect pour Dieu quand on vient l'adorer, quand on vient lui rendre un culte. Alors cela nous montre l'état d'esprit dans lequel on doit être quand on vient adorer. On vient adorer avec respect, on vient adorer avec piété. On ne vient pas assister à un culte. J'entends parfois cette expression « je vais assister au culte ». Ce n'est pas la manière de parler de l'Écriture. Quelqu'un qui assiste au culte, c'est quelqu'un qui vient entendre, qui vient écouter les autres. Il est un assistant. Or, la Bible nous montre que nous devons être des participants. Nous devons rendre un culte à Dieu. C'est un verbe actif. Donc, le verbe lutréo en grec, lutréo, signifie littéralement de faire un service. C'est le verbe qui dit rendre un culte. Signifie littéralement faire un service, donc rendre un culte ou adorer. Ce sont donc des verbes actifs. Et quand on vient dans la maison de Dieu avec une mentalité d'assister à un culte, on ne rend pas un culte agréable à Dieu, mais on est à côté de ce que Dieu demande. Donc il nous faut réaliser ce que nous sommes en Christ pour comprendre ce que Dieu attend de nous. Qu'est-ce que nous sommes en Christ? En Christ, nous sommes des sacrificateurs. Des sacrificateurs dans l'Ancienne Alliance, ils venaient apporter des sacrifices à Dieu et ainsi ça permettait d'honorer Dieu. Or, dans le Nouveau Testament, la Bible dit que ce ne sont plus une catégorie de personnes particulières dans le peuple de Dieu qui est sacrificateur, comme c'était le cas dans l'Ancien Testament, mais le Nouveau Testament dit que nous sommes un royaume de sacrificateurs. Donc tous, Nous sommes des sacrificateurs ce matin. Peut-être on n'en a pas conscience, mais c'est ainsi. Selon la parole de Dieu, on est des sacrificateurs. Quel est le rôle d'un sacrificateur ? C'est d'apporter à Dieu un sacrifice de louange pour nous, pour le Nouveau Testament. Donc ce sont des victimes spirituelles. Dans le Nouveau Testament, c'est dit, nous offrons l'offrande de nos lèvres. Il ne s'agit plus d'animaux, il ne s'agit plus de sang versé, de sang répandu, mais tout est spirituel. Et si je n'ai pas compris que je suis un sacrificateur, alors je viens effectivement assister à un culte, mais je ne viens pas servir le Seigneur. Or, Dieu attend de moi que je sois ce sacrificateur qui apporte un sacrifice de louange, d'adoration. Et ainsi, je remplis mon service devant Dieu. Alors, est-ce que je suis un sacrificateur fidèle ? Est-ce que je suis un sacrificateur consciencieux, sérieux ? Alors, c'est à chacun de répondre, mais c'est ce que Dieu désire. Le culte pour un chrétien, c'est très important. C'est un rendez-vous avec Dieu. Je ne sais pas comment vous venez au culte, mais pour ma part, chaque réunion, chaque culte, c'est un rendez-vous avec Dieu. Moi, je le note sur mon agenda. Je sais que le dimanche après-midi, mardi soir, ce sont mes rendez-vous avec Dieu. Et j'y prends un grand sérieux, parce que si j'avais rendez-vous avec une personnalité comme, je ne sais pas, le maire de Toulouse ou on va dire le Premier ministre, quelqu'un de haut placé. Si j'avais rendez-vous avec quelqu'un comme ça, moi je me prépare à l'avance, j'arrive en avance pour ne pas faire attendre cette éminente personne. Et ça c'est normal, c'est une preuve de respect, parce qu'on ne fait pas n'importe quoi. Mais je remarque que pour Dieu, on considère que c'est secondaire, c'est moins important. Finalement, qu'on soit là, qu'on ne soit pas là, peu importe. Mais ce n'est pas sérieux, frères et sœurs, ce n'est pas comme ça qu'on doit comprendre les réunions, les rassemblements. Les rassemblements, c'est important, c'est nécessaire d'être là et d'être fidèle. Pour Dieu, on pense qu'il nous aime quand même, il ne dira rien, mais c'est de la légèreté en réalité, c'est de la légèreté spirituelle. Je reviens à ce verset qui dit que nous devons rendre un culte à Dieu avec crainte. Avec crainte, c'est-à-dire avec respect. Où est la crainte de Dieu ? On a parfois plus de respect pour les grands hommes de ce monde que pour notre Dieu qui pourtant est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Est-ce que nous avons la crainte de Dieu ? Est-ce que nous respectons Dieu ? Alors nous devons l'honorer, nous devons le respecter. Si quelqu'un a un problème, peut-être avec les horaires, ben c'est à nous de changer. Dieu ne va pas s'adapter. C'est à nous de nous adapter. Dieu est toujours à l'heure au rendez-vous. J'ai remarqué dans certaines églises, et que Dieu nous garde que ça arrive à Toulouse-Ouest, que les gens arrivant toujours de plus en plus en retard, ben, finalement le culte commence avec 10 minutes, un quart d'heure de retard, et quelquefois ça m'arrive, quand je vais prêcher à l'extérieur, ben, moi ça me peine. Ça me peine parce que quelque part on n'est pas sérieux avec Dieu. On est sérieux avec les choses de ce monde, mais avec Dieu, on considère que c'est secondaire. Pour les cultes, nous devons honorer le Seigneur. C'est pour ça que je demande toujours, quand on est rassemblé, on commence. Alors parce que le Seigneur n'est pas en retard. Si nous avons un problème, nous sommes en retard, ça peut arriver, une exception, etc. Je ne parle pas des exceptions. Mais si ça devient une règle générale, je trouve que c'est attristant, parce que nous n'honorons pas Dieu. Nous le considérons comme moins important peut-être qu'un maire ou qu'un ministre, pour lequel nous aurions au moins l'obligeance d'être à l'heure au rendez-vous. Alors je pose la question ce matin, est-ce que nous voulons honorer les rendez-vous de Dieu, oui ou non? Chacun répond dans son cœur. Un autre aspect important est quel est l'état d'esprit dans lequel nous venons dans la maison de Dieu. Je l'ai dit tout à l'heure, pour Dieu ça a beaucoup plus d'importance que ce que nous pensons. Un jour Jésus a demandé à ses disciples, de quoi discutiez-vous en chemin? Vous connaissez cette question. De quoi discutiez-vous en chemin? Et il se trouve que les disciples avaient parlé de qui était le plus grand. Ils étaient animés d'orgueil. Alors ils ont gardé le silence, ils n'osaient pas répondre au Seigneur. Mais figurez-vous que Jésus avait entendu la conversation sans être présent, mais il sait tout. De même, le Seigneur entend nos conversations. Et si ces personnes qui avaient discuté pour savoir qui était le plus grand dans un état d'esprit, donc d'orgueil, étaient venues au culte pour adorer Dieu, on pourrait dire qu'ils seraient venus dans un mauvais état d'esprit. Ils seraient venus effectivement à la réunion, peut-être même ils auraient loué du bout des lèvres, mais Jésus savait très bien ce qu'il y avait dans leur cœur. Et c'est pour ça qu'il leur dit, mais de quoi discutiez-vous en chemin? ça ne pouvait pas rendre gloire à Dieu. Quelquefois, il y a un grand décalage entre nos paroles que nous pouvons prononcer dans les cultes, les louanges que nous pouvons adresser à Dieu ou les chants que nous chantons, et la réalité que nous vivons dans notre cœur. Et Dieu voit la différence. Alors, il agrée une louange parce qu'elle vient d'un cœur sincère, mais il n'écoute pas, il n'approuve pas une louange qui vient d'un cœur tortueux ou qui vient d'un cœur qui n'est pas sincère, qui n'est pas droit devant sa face. Et si Jésus nous demandait ce matin, à vous mon frère, à vous ma sœur, de quoi discutiez-vous en chemin ? Parfois, il y en a qui se disputent avant le culte. Parfois, il y en a qui se critiquent ou qui disent des mots négatifs, des paroles mauvaises, avant même le culte. Quelquefois, dans le hall, quelqu'un va critiquer son frère, sa sœur, et puis il vient louer Dieu. Est-ce qu'on pense que Dieu va approuver une louange qui vient d'un cœur, qui vient d'émettre des mauvaises pensées ? Ça n'est pas sérieux. Ça n'est pas la gloire de Dieu. Ça ne peut pas plaire au Seigneur. Dieu n'est pas sourd. Il voit très bien celui qui est sincère. Il voit très bien celui qui est hypocrite. Il voit celui qui a un cœur pur. Il voit celui qui a un cœur rempli d'amertume. Il voit celui qui a un cœur qui est rempli d'amour pour lui. Il voit celui qui a un cœur qui est rempli d'orgueil. Et de même que Dieu va approuver la louange d'un peuple sincère, de même Dieu ne va pas agréer l'offrande simplement de nos lèvres, mais avec un cœur rebelle, un cœur mauvais, rempli de mauvaises pensées. Ça, c'est l'importance du culte pour nous. Maintenant, dans une deuxième partie, j'aimerais voir un point finalement très important, c'est la préparation du culte. La préparation du culte. Quand on a réalisé l'importance, c'était le premier point, on a dit le culte, c'est important aux yeux de Dieu, c'est important pour nous. On ne prend pas ça à la légère, on ne fait pas n'importe quoi, mais on prend les choses sérieusement. Quand on a réalisé cela, alors on comprend qu'avant le culte, on se prépare pour venir rendre un culte à Dieu. Ça, c'est dans la prière personnelle, à la maison, et puis on s'attend à l'action de l'Esprit, et puis on est nourri de la parole de Dieu. On est imprégné de la parole de Dieu. On n'arrive pas au culte, vous voyez, un petit peu comme on va, je dirais, au cinéma ou un spectacle quelconque, alors on va assister. Je reviens sur l'expression de tout à l'heure, on va assister à une production. Ce n'est pas ça le culte. Des fois, on le dit aussi, on ne lit pas la parole de Dieu comme on lit un roman, par exemple. On peut lire des histoires, des journaux, des nouvelles, c'est une chose, mais quand on lit la parole de Dieu, on ne lit pas simplement avec notre intelligence, mais avec un cœur ouvert. Je crois donc qu'il y a une préparation et que chacun a sa part à faire pour se préparer. En réalité, nous avons tous notre place dans le culte. C'est un petit peu comme un concert de louange, un concert d'adoration. On parlera de symphonie. Quand il y a des instruments qui s'assemblent pour effectuer une symphonie, tous donc arrivent et tous se sont utiles pour la beauté de l'ensemble. Et je crois que quand nous sommes assemblés pour rendre un culte à Dieu, nous sommes comme des instruments chacun, et chacun nous allons bien être utiles pour que cette symphonie soit belle pour Dieu. Si le Saint-Esprit voulait vous accorder un don spirituel, par exemple ce matin ou dimanche prochain, et si vous n'êtes pas préparé, et si vous ne vous êtes pas préparé, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, le Saint-Esprit va voir que vous n'êtes pas prêt et il va choisir quelqu'un d'autre. Et peut-être vous vous dites, oui, mais moi, le Saint-Esprit ne m'utilise jamais. Mais est-ce qu'on est prêt à être utilisé par le Saint-Esprit ? À chaque fois qu'on vient à un culte, on doit se préparer et dire, Seigneur, si tu veux m'utiliser, je veux être disponible pour apporter quelque chose de ta part. Certains pensent malheureusement que la louange, l'adoration, c'est un temps préparatoire, en quelque sorte à l'écoute de la parole de Dieu. Ce n'est pas le cas. La louange et l'adoration, c'est quelque chose que nous devons rendre à Dieu. Et lorsque nous arrivons au culte, nous devons être prêts à louer et adorer le Seigneur. On vient pour servir. Si moi je prends tout le temps de la louange et de l'adoration pour me préparer, vous voyez que je n'ai pas accompli le service que Dieu attend de moi. Je suis à côté du culte, encore une fois. Parfois, pour le conducteur de louange, c'est comme si c'est lui qui devait entraîner l'auditoire dans la louange. Et puis, comme les gens arrivent plus ou moins par grappe, alors c'est très difficile. Or, en réalité, un culte, comme Dieu le désire, c'est qu'on arrive, et dès le premier chant, si j'ose dire, on est prêt à adorer le Seigneur. Vous voyez, quand on est préparé, c'est tout différent. Des fois, il faut plus d'un quart d'heure pour amener l'auditoire dans la louange, dans l'adoration. Pourquoi ? Parce qu'on ne s'est pas préparé. Certains passent tout le temps de la louange, ils sont à côté, alors ils chantent, c'est vrai, mais ils chantent du bout des lèvres, ils regardent ce qui se passe à gauche, ils regardent ce qui se passe à droite, mais ils ne ressentent rien, ils n'expriment rien, ils ne vivent rien pour Dieu. Ce n'est pas rendre un culte à Dieu. Pourquoi ? Ils ne sont pas préparés. Ils pensent que c'est au conducteur de louange d'entraîner. Or, chacun, nous devons être prêts à avancer. Parfois, certains disent, oui, ce matin, c'était des beaux chants, ou c'était des nouveaux chants, c'était bien ou c'était moins bien. Mais nous sommes appelés, plus qu'à chanter, frères et sœurs, à être des adorateurs. Le chant, en réalité, n'est qu'un moyen pour nous amener à l'adoration, à la louange. J'aimerais attirer votre attention sur ce point, c'est qu'il y a une grande différence entre le chant et l'adoration. Le chant, on peut chanter du bout des lèvres, mais notre esprit est encombré et on est ailleurs. On est en train de chanter des paroles, on les dit, on les récite, mais en réalité, on n'adore pas. Quand on n'est pas préparé, la Bible dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis et lui-même prend soin de vous ». Est-ce que c'est quand j'arrive au culte que je vais me décharger ? Ou est-ce que c'est à la maison que déjà je prends le temps de me préparer à venir au culte ? Vous voyez ? C'est très important. On peut chanter pendant des heures, on peut chanter, sans louer une minute. Mais par contre, on aura chanté. Mais ce n'est pas ce que Dieu attend. Dieu n'attend pas de nous des chants. Dieu attend de nous de la louange et de l'adoration. Quand on loue Dieu, on utilise beaucoup les chants, mais ce n'est qu'un moyen. Le but, c'est toujours la louange. Alors, comment est-ce qu'on peut louer Dieu par les chants ? Bien, déjà, je crois que quand on chante, on s'adresse à Dieu directement, un petit peu comme quand on loue, quand on prie. Ce matin, on était au culte, on a chanté. Moi, personnellement, je vous dis comme je le vis, quand je chante à Dieu. Donc, je ne m'inquiète pas de celui qui est là à côté ou celui qui est derrière. Je viens au culte. Pour moi, il est centré sur Dieu et j'adore Dieu, je loue Dieu. C'est comme ça que je fais. Et frères et sœurs, c'est comme ça que nous devons faire, nous chantons à Dieu. Parfois je ferme les yeux quand je chante, parce que j'adore Dieu, je loue Dieu, j'oublie un petit peu même les paroles du chant, et je commence à louer Dieu comme ça, parce que pour moi c'est pour Dieu que je le fais. Quelquefois il y en a qui me disent, oui mais qu'est-ce qu'on va penser de moi si je me lève, si je lève les mains, et puis on me regarde et ceci et cela. Mais moi ça ne me dérange pas. Moi, quand je viens louer le Seigneur, peu importe si quelqu'un me regarde ou si quelqu'un ne me regarde pas, théoriquement, personne ne va me regarder parce que tous, nous sommes en train de regarder vers le Seigneur. Amen ? Oui ou non ? Où est-ce qu'on regarde un tel ? Où est-ce qu'on regarde un tel ? Non, on regarde vers le Seigneur. Alors après qu'il y en ait deux, il y en ait quelques-uns qui regardent à gauche, qui regardent à droite, laissez ça de côté. Vous-même, venez pour adorer le Seigneur. S'il y en a qui veulent faire autrement, qu'ils fassent autrement, c'est leur liberté, c'est leur responsabilité. Mais en tout cas, ça ne doit pas m'empêcher, ça ne doit pas vous empêcher, frères et sœurs, de venir pour adorer le Seigneur librement, sans vous demander dans votre esprit, et si je lève le bras ou si je me mets debout, qu'est-ce qu'on va penser de moi ? On va me regarder de travers, et patati patata. Tout cela, il faut le mettre de côté, parce que sinon, on se sent, j'allais dire, oppressé, angoissé, et puis la louange ne vient pas spontanément, et puis on passe à côté encore du culte. Alors, on est toujours dans la préparation, c'est un moment donc important qui se passe avant le culte. On a parlé de la prière, on prie pour préparer, on est attentif à l'esprit, c'est-à-dire quand on vient au culte, on se dit « Seigneur, si tu veux m'utiliser pour un don spirituel, je vais être disponible ». Je crois qu'il y a un aspect important dans la préparation, c'est d'arriver dans ce lieu rempli de la parole de Dieu. Peu de gens comprennent l'importance, la nécessité de s'imprégner des Écritures. Mais si on n'est pas rempli de la parole, imprégné de la parole, ben on ne va pas pouvoir apporter un conseil, un encouragement, une exhortation. On arrive sec, aride, et on n'a rien à apporter aux autres. Or, quand on vient au culte, comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne vient pas pour recevoir, on vient pour apporter. Et même tout à l'heure, à l'issue de la réunion, peut-être vous pourrez apporter une exhortation à quelqu'un, un encouragement, si vous êtes rempli de la parole de Dieu. C'est important. Je pense aux Juifs de Bérée, dans Actes 17, verset 11. Voilà des gens qui aimaient la parole. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Ils la recevaient avec empressement, ils étaient imprégnés de la parole de Dieu et ils s'y plongeaient chaque jour. Voilà comment nous devons arriver au culte, frères et sœurs, étant remplis de la parole de Dieu. Et vous allez voir, ça change tout. Alors, on va terminer avec une dernière partie. Les éléments du culte. Quels sont les éléments du culte? Bon, bien sûr, il y a la louange et l'adoration. La louange et l'adoration, alors, on distingue la louange et l'adoration en ceci, c'est que la louange, c'est rendre gloire à Dieu pour ses attributs, c'est-à-dire Dieu est amour, Dieu est grand, Dieu est puissant, Dieu est glorieux, donc on loue Dieu pour ses attributs. Et puis, l'adoration, c'est un peu une déclaration d'amour pour Dieu. On dit au Seigneur qu'on l'aime et qu'il est tout pour nous, qu'il est le premier dans notre vie. C'est ça l'adoration. L'adoration, c'est un mot qui signifie se prosterner. On reconnaît l'infinie grandeur de Dieu et nous, notre petitesse devant sa face. Toute la première partie du culte est donc centrée sur la personne de Dieu, de Jésus, et on vient pour l'adorer, pour le glorifier. Et j'attire votre attention sur ce point, c'est qu'on ne vient pas au culte pour demander. Malheureusement, certains profitent du culte pour prier Dieu, c'est-à-dire pour intercéder pour un sujet. Encore si c'est exceptionnel, ça doit l'être. Mais ça ne doit pas devenir une habitude. Car nous devons prioritairement, nous venons pour bénir le Seigneur, pour honorer Dieu. Alors c'est vrai qu'avant le culte, on a un temps de prière où là c'est l'occasion de prier pour les sujets, les malades, etc., etc. Mais une fois que le culte d'adoration commence, mettons les prières de côté et on se concentre sur la personne de Jésus et on vient l'honorer, on vient l'adorer. On a aussi des réunions de prière, on a des réunions donc spécialement dédiées à l'intercession et ce n'est pas le lieu du culte. Alors c'est vrai que quelquefois il va y avoir un sujet de prière spécifique, s'il y a une onction d'huile, s'il y a un cas particulier et on le signale et on prie à ce moment-là. Mais tout le culte, tout le reste du culte est centré sur l'adoration et la louange. Quelqu'un m'a dit un jour, oui mais moi, je ne sais pas louer le Seigneur, je ne sais pas louer Dieu. En réalité, louer Dieu, ça s'apprend. Comment est-ce qu'on peut apprendre à louer Dieu? Je crois que le meilleur moyen pour apprendre à louer Dieu, c'est de lire les psaumes. Et quand on lit les psaumes, on s'imprègne déjà de la louange et de l'adoration. La plupart des psaumes, déjà, sont des beaux exemples de louanges. Et là, on apprend à louer Dieu. Il y a de nombreux passages comme ça qui nous l'apprennent. Donc, peut-être avant le culte, prenez le temps de lire trois psaumes. Trois psaumes. Vous nourrissez de la parole de Dieu et de louanges. Et comme ça, vous arrivez, vous êtes prêt à louer le Seigneur. Bien sûr, quand on loue le Seigneur, on se laisse conduire. On se laisse conduire, on ne fait pas une récitation. Et je crois que quand on est amoureux, quand on aime vraiment Dieu, on trouve toujours les mots. Je pense à ce fiancé ou cette fiancée qui est capable toujours d'écrire des lettres d'amour. Et malgré qu'elle écrit, elle écrit, elle écrit, elle trouve toujours les mots. Et je crois que c'est vrai pour Dieu. Quand on aime Dieu, on va toujours trouver les mots pour l'adorer et les mots pour le louer parce qu'on l'aime. Mais si notre amour s'est éteint ou a diminué, alors la louange aussi diminue. Quelqu'un m'a dit un jour, mais moi, je suis timide, je n'ose pas élever la voix, je n'ose pas prier. J'aimerais lire un texte dans Éphésiens 5 pour vous montrer comment on doit louer. Éphésiens 5, 19. C'est curieux que des fois on est timide dans la maison de Dieu et qu'à l'extérieur on est plus timide, ou même dans le hall on est plus timide, ou même quand on est devant un match de football, on est prêt à pousser des cris et là, il n'y a plus de timide. Mais quand c'est dans la maison de Dieu, tout d'un coup, on est timide. En réalité, comment est-ce que nous devons louer Dieu? Psaume Éphésiens 5, 19. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Alors là, il n'y a pas de timide parce que nous devons chanter et célébrer de tout notre cœur. Et c'est ainsi que Dieu approuve la louange, quand le cœur est sincère, quand le cœur est droit, et nous le faisons sans crainte, sans retenue. Donc je ne dois pas avoir peur de ce qu'un tel va penser. Et si je me trompe dans la louange, et si je me trompe, et si je dis un mot de travers, et si je ne fais pas un bon accord, ça n'est pas grave. Dieu agrée la louange d'un cœur sincère. Il n'y a pas de timide quand on est dans l'adoration. Il est question dans ce passage de louange collective, de louange individuelle. Il est question de louange en esprit. Quand il est dit des cantiques spirituels, c'est traduit aussi par des cantiques inspirés par l'esprit ou des cantiques en esprit. Donc on peut louer inspiré par l'esprit, on peut chanter inspiré par l'esprit. Et là vous avez des chants donc spirituels. Et on peut louer en langue, en chantant en langue aussi. Donc tout cela, voyez-vous, il y a une grande liberté dans les cultes, une grande possibilité d'expression, et c'est à nous de le faire pour la gloire de Dieu. C'est merveilleux quand tout un auditoire se met à louer le Seigneur en langue, en chant en langue, et on adore le Seigneur, et on n'est pas là en train de se dire « Oui, mais qu'est-ce qu'on va penser de moi ?» etc. Parce que devant Dieu, il n'y a pas de timide, et on ne doit pas se préoccuper du regard des autres, on s'exprime librement. Bien sûr, pendant le culte, il y a d'autres éléments, il y a la Sainte Cène que nous prenons le dimanche, dans Matthieu chapitre 26, verset 26, c'est Jésus qui nous a laissé cette recommandation. C'est un moment important, car il fait référence à la croix. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps ». Il prit ensuite la coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance qui est répandu pour beaucoup ». Pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Bien sûr, c'est un repas qui a été symbolique, mais qui a été institué par Jésus le soir de la Pâque, la dernière Pâque qu'il a vécue sur terre. Et Jésus nous a demandé de le faire jusqu'à ce qu'il revienne. Donc, nous accordons une grande importance à ce temps de la Sainte Cène. Le pain que nous prenons, le vin que nous buvons, c'est des symboles. Ça représente le pain, ça représente le corps de Christ qui a été brisé à la croix, et le sang qui a été le vin, ça représente le sang qui a été versé. Donc la Sainte Cène nous parle de la croix. Et dans chaque culte, quand on rend un culte à Dieu, il y a toujours une place importante qui est accordée à la croix. Parce que sans la croix, on ne serait pas là pour se réunir, pour faire un culte, parce que sans la croix, on serait tous perdus. La crucifixion de Jésus, c'est le moyen par lequel nous sommes sauvés. Donc on doit se souvenir et on doit se rappeler de l'œuvre de Christ à la croix. Sans la croix, pas de salut possible, tout est vain. C'est pour ça que le temps de Sainte Cène est particulièrement important et on doit le prendre avec reconnaissance, avec sérieux et reconnaissance. Un autre aspect du culte, c'est la prédication de la parole. La prédication qui consiste en une exhortation, un conseil, une pensée de Dieu qui est partagée, et ça va être une nourriture spirituelle pour fortifier l'âme. Donc nous devons venir avec un cœur prêt pour recevoir la parole. Il y a aussi des dons spirituels, car comme je le disais, nous devons venir au culte avec cette habitude de dire « Seigneur, si tu veux m'utiliser pour un don, eh bien, je vais être disponible. » Et le Saint-Esprit va distribuer des dons. Ça peut être un parler en langue, ça peut être une prophétie ou d'autres dons, comme ils sont mentionnés dans la parole. Alors, soyons attentifs quand il y a des dons spirituels, parce que c'est que le Saint-Esprit veut nous parler. Et si ça se passe pendant la distribution de la scène, alors on s'arrête un petit peu, on arrête la distribution et on écoute ce que le Seigneur veut dire. Et puis après, quand le don est passé, on continue le service de distribution. Et puis bien sûr, pendant le culte, nous avons une partie réservée aux offrandes. Aux offrandes, parce qu'on honore Dieu, non pas seulement avec notre bouche, notre lèvre, mais aussi avec nos revenus. C'est dans Proverbes chapitre 3, verset 9. Proverbes 3, 9. « Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu, alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de moût. » C'est ainsi que notre offrande, l'offrande que nous apportons à Dieu, que nous mettons à part, la dîme, les offrandes missionnaires, tout ce que nous faisons, l'achat local, tout ce que nous faisons pour le Seigneur, eh bien, c'est un moyen d'honorer Dieu. Pour nous, l'argent, ce n'est pas un but en soi, mais c'est un moyen. Nous savons que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Si Dieu nous a bénis, gloire à Dieu, et nous voulons honorer Dieu avec nos biens, avec notre argent. En conclusion, est-ce que nous voulons, frères et sœurs, rendre un culte agréable à Dieu, oui ou non? Amen. Il y en a quelques-uns qui sont d'accord? Bon, gloire à Dieu. Si nous voulons rendre un culte agréable à Dieu, alors on a vu toutes les conditions nécessaires. Ça va nécessiter de la préparation, un temps à part, ça nécessite de la ponctualité, de la régularité. On ne prend pas les cultes comme si c'était n'importe quoi. Et vous allez voir que si on le fait sérieusement, non seulement ça sera agréable à Dieu, c'est ça le but, mais aussi nous-mêmes, on va progresser dans la louange, dans l'adoration, et on va apprendre de Dieu à le louer de mieux en mieux. Est-ce que vous pensez qu'on peut encore faire des progrès? Ou est-ce qu'à Toulouse-Ouest, ça y est, on est arrivé au summum? On ne peut pas faire mieux. On peut toujours progresser. Hein. Et moi, dans mon cœur, il y a toujours ce désir de faire de mieux en mieux pour le Seigneur. Et c'est pareil dans la louange, dans l'adoration. On vient pour le louer, oui, mais de mieux en mieux, de plus en plus, pour sa gloire. Et on doit apprendre dans la parole, dans la louange, dans l'adoration. Tout est un moyen pour progresser. On va prier quelques instants le Seigneur. Seigneur, nous voulons encore considérer ta magnificence, ta grandeur, ta bonté, ta puissance. Merci parce que tu tiens toutes choses entre tes mains. Et c'est à toi que nous venons rendre un culte. Qui sommes-nous, Seigneur, nous faibles créatures, pour que tu agrées ce culte? Mais Seigneur, nous le faisons de tout notre cœur. Et nous voulons le faire de mieux en mieux pour ta gloire, avec fidélité, avec régularité, avec dans notre cœur un débordement d'amour pour toi. Seigneur, encourage mes frères et sœurs, qu'il n'y ait pas de timides au milieu de nous, mais qu'il y ait vraiment la liberté par le Saint-Esprit d'apporter nos louanges, notre adoration. Bénis mon frère, ma sœur qui passe par des moments difficiles. Mais Seigneur, toutes ces choses, nous voulons les mettre de côté parce que quand nous venons dans ta présence, c'est toi qui es au centre de notre vie. Nous sommes centrés sur toi. Nous voulons t'apporter la reconnaissance qui t'est due. Seigneur, garde-nous dans ta paix et bénis chacun. Que ton Saint-Nom soit loué. Amen.